Radio Saint-Afrique propage sa passion de la radio dans toutes les directions. Et en ce mois d'avril 2018, l'association ESMA de Toulouse nous a contactés, Radio Saint-Afrique, organisme de formation, pour leur filer un petit coup de main à l'établissement de la nouvelle, toute dernière, toute fraîche web radio, Radio Mirail International. On y est allé pour leur filer la main, et le 9 juin dernier est né Radio Mirail International avec cette première émission que Radio Saint-Afrique se fait un plaisir de diffuser.
Radio Mirail International.
Ok, bonjour, bonjour, bonsoir ou bon matin des GamerMat, bienvenue à la toute première émission de Radio Mirail International, une nouvelle radio d'habitants du Mirail, du Grand Mirail même, puisqu'il y aura la Rennerie, Bellefontaine, Bordelongue, Papus, Bagatelle, les Pradettes, dont on va parler tout à l'heure, etc., etc. Donc c'est une nouvelle radio par et pour les habitants, avec des sons d'ici et d'ailleurs. Une radio internationale, mais ancrée sur le quartier, dans la ville de Toulouse, et ouverte sur le monde, d'où ce côté international. Voilà, donc on se lance un peu pour cette première émission, aidée par Clément et Audrey de Radio Saint-Afrique, donc qui est une radio associative en Aveyron. Merci à eux. Et donc, comme c'est une première émission, bah, ça va peut-être être, voire sans doute, un petit peu bancal. Il va y avoir des « il va y avoir des blancs, il va y avoir des bafouillages, tout ça, etc. Sans doute des problèmes techniques, on espère. Voilà. Mais qui ne se jette pas à l'eau, ne se mouille pas, comme disait Confucius. Voilà, et donc on va démarrer par un tout premier son. On avait fait un petit atelier il y a 3 semaines, je crois, et on avait été voir les gens dans le quartier pour savoir ce qu'ils penseraient, qu'est-ce qu'ils mettraient dans une radio au Mirail, une radio des habitants.
Oui, bonjour madame, c'est Radio Mirail International.
C'est bon, tu entends bien? Le son, il est...
Ah, il est trop fort, donc il ne faut pas parler trop près, donc il faut l'éloigner.
Je représente Radio Mirail International. Puisque la radio est pour les habitants et pas les habitants, c'est les habitants qui vont mettre en place tout ce qu'ils aimeraient comme plage horaire, programme et tout et tout.
Je vois qu'on a recruté de très grands journalistes. Ça fait plaisir.
Je pense que déjà c'est une bonne idée. Et comme il a dit mon frère, ça veut pas dire qu'on est dans un quartier, qu'il faudrait mettre du rap. Ça serait bien de mettre un peu de tout. Mais comme quand vous avez dit que vous aimeriez améliorer un peu le quartier, moi, pour moi, c'est un peu trop tard, je pense.
De quoi tu voudrais qu'on parle dans la radio?
De tout. De tout, de tout, de tous les problèmes qui existent dans le quartier. De tout. Ouais. Nous avons de sacrés problèmes. Le premier problème que je vais aborder, c'est le problème de la mixité de population. Maintenant, ils nous ont laissé tomber. Je veux dire la mairie, elle nous a laissé tomber, ils ne nous aident pas pour réaliser ce problème. Et de deux, pour s'occuper des habitants aussi, les habitants, on les a abandonnés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Ça peut aider dans le quartier, ça c'est vrai. Et je serai le premier à venir pour débattre dans cette nouvelle radio.
Merci beaucoup Kadour, merci. Nous vivons ensemble, mais les uns à côté des autres, nous devons vivre ensemble. C'est ça, le vivre ensemble. Et ça nous permet de créer du lien, de connaître l'autre et l'autre est toujours une source de bénédiction pour nous. Et l'autre nous permet, nous, de nous ouvrir sur l'extérieur et d'en connaître un peu plus sur la culture de l'autre, sur sa religion, sur sa pratique. Et c'est ce qui fait que les gens vivent ensemble et se sentent bien ensemble.
Je trouve que c'est très très intéressant d'installer une radio Mirail sur le quartier. Ça, c'est très intéressant. Comme ça, nous pourrons savoir qu'est-ce qui se passe dans le quartier. Avec les habitants, ils vont débattre, ils vont discuter, ils vont nous dire ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Et on va savoir tout sur le quartier. C'est super comme idée.
Radio Mirail International vous remercie et à bientôt, Bernadette.
Radio Mirail International. Nous, c'est Radio Mirail International avec mes collègues. Donc, nous faisons une sorte de radio-trottoir pour avoir vos sentiments, vos impressions par rapport au manque d'un moyen, d'un outil de communication sur le quartier. Qu'en pensez-vous ?
Voilà, et donc pour démarrer après ce petit son, un premier invité. Bah, le premier invité, c'est par rapport à la genèse de l'histoire, mais je te laisse Mathieu Djamal, c'est à vous.
Alors bonjour.
Bonjour.
Nous recevons ici aujourd'hui, dans les locaux de Radio Mirail International, celui sans qui ce projet de radio n'aurait pas vu le jour, le grand initiateur de ce projet, qui est venu avec sa belle chemise bleu qui se confond avec le beau ciel d'aujourd'hui, Djamal El Arch. Alors, qui n'est pas venu seul. Alors bonjour Djamal, merci d'être là pour la toute première émission de Radio Mirail International. Et pour commencer, pour les personnes qui nous écoutent, pouvez-vous nous présenter ce projet ?
Alors, ce projet est né d'une rencontre avec les habitants eux-mêmes. Donc, ce n'est pas vraiment mon projet. Ce sont des gens avec qui je discutais, qui me disaient, voilà, ici sur ce territoire qui représente pratiquement 50 000 habitants, on n'a pas d'outils de communication, on n'a pas des médias qui nous représentent, qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Et ils sont partis d'une critique qui me paraît justifiée, celle de la critique des médias officiels qui, eux, racontent les gens de ces quartiers d'une manière fantasmée et donc qui les font encore invisibiliser ou qui les font visibiliser d'une manière mensongère. Donc les gens, ils ont pris conscience, ils se sont dit « ça serait bien qu'on soit acteurs nous-mêmes dans la communication de qui nous sommes ». C'est une question d'authenticité de l'information. Et le fait de se définir par soi-même avec ses mots permet de communiquer avec l'autre qui communique lui-même aussi avec ses mots. Et donc, de la singularité, on rentre dans le collectif. Voilà la genèse de ce projet. Alors, les défis sont énormes parce qu'il ne suffit pas de faire un constat. Pour le bâtir, c'est autre chose. Pour que les habitants s'approprient un outil, dans la forme et le contenu, dans la forme et le sens, ce n'est pas évident puisqu'ils étaient habitués pendant des années à ce que d'autres les représentent.
Alors vous, Djamal, justement, vous qui connaissez ce quartier depuis plusieurs dizaines d'années, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle évolution vous avez vue justement sur cette prise de parole dans le quartier des habitants, par les habitants ?
Ben justement, c'est ce que je suis en train de dire, la critique fondamentale, parce que les habitants, effectivement, contrairement par exemple au quartier des Pradettes, qui est dans le Mirail, les habitants ne s'organisent pas réellement en collectif pour créer leur propre outil de défense, de vie, etc. D'accord ? Dans ce quartier, il y a beaucoup d'associations, je ne critique pas les associations, mais en tout cas, il y a beaucoup d'associations qui représentent 80-85% dont l'objet principal est la prestation de services. Donc les habitants ne sont pas des acteurs. En fait, contrairement aux Pradettes, on verra ça tout à l'heure, il y a un collectif d'habitants qui pèse aussi sur les décisions, au moins qui essaye de peser sur les décisions politiques concernant l'aménagement de territoire. Or, sur Bellefontaine et Rinerie, aujourd'hui, destruction, construction, le grand projet de ville, etc., les habitants ne sont pas vraiment, ils ne disent pas, les usagers n'ont pas le droit de citer dans ces grands projets stratégiques. Par contre, on les consulte, on les concerte dans, en ce qui concerne tout ce qui est annexe, secondaire, quel trottoir, quel machin. Mais la stratégie réelle de logement, de l'habitat, de l'aménagement, elle est déjà prédéfinie et décidée par les décideurs.
Et donc, vous voulez donner la parole aux habitants du quartier grâce donc à cette radio.
On ne veut pas donner la parole, on veut juste créer des conditions pour que les habitants prennent la parole par eux-mêmes. Donc on ne distribue pas la parole, mais que les habitants prennent la parole par eux-mêmes en fonction de leur histoire et de leur regard, parce qu'ils ont une expérience, ils ont une expertise. Donc ils sont des experts par rapport à leur propre vie. Ils n'ont pas besoin d'un expert qui a vécu autre chose et qui vient leur dicter comment ils doivent vivre, comment ils doivent marcher, comment consommer, qu'est-ce qu'il faut acheter, etc. Voilà. Mais au-delà de cette question-là, ce qui nous a poussé, nous, en tout cas moi personnellement, à militer sur cette question-là, c'est la rupture territoriale et sociale qui existe depuis des années. La politique de la ville nous a présenté cette politique comme quelque chose qui va régler ces affaires-là. C'est une rupture réelle entre une population qui habite ce qu'on appelle le centre-ville ou la petite périphérie et ce qu'on appelle la banlieue, donc ce qui est en dehors de la ville, et en dehors du lieu. D'accord. Et donc, je finis rapidement, cette séparation, cette fracture territoriale et sociale a été aussi consolidée par des discours construits par les médias, on revient à la question médiatique, et les politiques, sur une population qui était qualifiée, parlée, racontée, sans qu'elle-même prenne la parole et dire qui elle est. Et donc on a créé une fracture aussi des imaginaires, des représentations sociales, entre les populations qui ne connaissent pas ces quartiers et les populations de ces quartiers qui ne connaissent pas non plus d'autres populations, d'autres territoires. Et donc ils se représentent mutuellement par les médias officiels, sans se connaître, qui les qualifie, et donc on arrive à une situation très, très, très conflictuelle dans les imaginaires et la représentation, qui est la formule qu'on entend en ville, quand on parle d'ici, c'est eux et nous, et quand on vient ici, on parle entre guillemets des autres, on parle de eux et nous, alors qu'on vit dans le même territoire, et nos mémoires sont enracinées dans l'histoire de ce territoire. Donc ça veut dire qu'il y a un cloisonnement des personnes et des histoires. Et nous, on cherche, quelque part, à décloisonner ces mémoires et ces histoires pour constituer ce qu'on appelle, nous, un récit commun, c'est-à-dire des cultures populaires, ouvrières et paysannes.
Alors, Jamel Arch, vous parlez de manière passionnée de ce quartier et de ses habitants. Vous êtes acteur associatif depuis quelques années déjà. Pouvez-vous nous rappeler quels ont été vos engagements et comment vous avez découvert ou rencontré cette fracture entre les différents partis?
Parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup circulé, et sur le plan territorial et sur le plan social. C'est-à-dire, j'ai travaillé à Albi dans le Tarn, Carmo, Saint-Juéry, Gaillac, Toulouse, Balma, etc. Donc j'ai beaucoup voyagé sur le plan métropolitain et interdépartemental. Et c'est aussi, comme j'ai milité sur plusieurs questions, j'ai aussi voyagé dans des milieux différents, prolétariat, sous-prolétariat, immigrés, pas immigrés, républicains espagnols, hein, les enfants des républicains espagnols, les enfants de l'immigration italienne, polonaise, belge, etc. Et aussi au niveau de ce que j'appelle la classification sociale. Donc j'ai des militants hein, qui ont des moyens, qui sont médecins, chirurgiens, ingénieurs et d'autres. Donc j'ai voyagé pas mal et c'est là où j'ai mesuré vraiment. Mesurer ces fractures-là. D'accord ? Et après, il ne faut pas être un sociologue très averti pour comprendre que cette construction s'est faite dans le temps, pendant pratiquement les débuts des années 80 jusqu'à maintenant, et une des traductions de ces fractures, bien évidemment, c'est l'extrême droite, c'est le Front National sur le plan politique. D'accord ? Mais ce n'est pas le seul porteur de tout ça. Lui, il recueille, hein, c'est un terrain fertile, c'est une construction médiatique depuis des années et politique, hein, quelles que soient d'ailleurs les formations politiques. On entend les discours sur les populations non seulement issues de l'immigration nord-africaine et subsaharienne, tu prends les discours et tu les décortiques sur les Roms, sur les Gitans, etc., tu retrouves les mêmes situations.
Alors, vous avez raison, Jamel, tout est politique, toute action est politique. Mais alors vous, votre action politique, elle se fait via les associations. Et alors, quelles sont les
associations? C'est un engagement associatif de longue date. Et celui qui a plus marqué, je dirais 2002, on a créé l'association Échanger Savoir Mémoire Active, ESMA, sur la base de ces constats-là, puisqu'en 2002, je le rappelle juste rapidement, le Front National arrive pour la première fois pratiquement dans l'histoire contemporaine politique française au deuxième tour. Donc il y a eu des réponses spectaculaires qui prennent les outils de la société du spectacle, genre on va faire des manifestations, c'était bien, hein. On était des milliers dans la rue, mais le lendemain, plus personne. Et d'ailleurs, la preuve que ces réponses, il faut qu'ils soient là, mais il faut qu'elles soient accompagnées d'autres, hein, beaucoup plus qualitatives et politiques, c'est qu'aujourd'hui, les dernières élections, le Front National est arrivé au deuxième tour, c'est pratiquement normal. On n'a pas entendu de manif ni rien. C'est-à-dire que c'est une banalisation complète, une légitimation complète de cette thèse, mais qui a traversé les frontières du Front National pour toucher complètement, ce que je disais tout à l'heure, les imaginaires aujourd'hui. Et donc il va falloir absolument, quand on est militant, de réfléchir sur ces pratiques, d'être critique et autocritique pour pouvoir créer de nouveaux outils. Et donc on a créé ESMA. Moi, j'avais fait un peu de cinéma, critique cinématographique. Je n'étais jamais réalisateur de films. Et c'est mon engagement militant, je demande à Corentin, il te dira, mon engagement militant qui m'a amené vers la création de l'image, donc du film, où les gens prennent la parole. Donc c'est une réalisation, on crée un espace, on prend une caméra, les gens prennent la parole, racontent qui ils sont, et on décloisonne ses mémoires.
Et donc là, aujourd'hui, on essaye de donner non plus du son, mais non plus de la vidéo, mais du son pour donner la parole aux...
C'est aussi un outil, ouais.
D'accord.
C'est un super outil. Alors, moi, je suis très, très content, parce que ça fait quand même 4 ans qu'on travaille sur ce projet. Il fallait être très patient, donc avec beaucoup d'échecs, de contraintes, de gens qui s'investissent pas, etc. Et aujourd'hui, ça fait maintenant, je dirais, à peu près 6 mois que les choses prennent. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des garçons, des filles, etc., qui sont très, très, très motivés et qui vont prendre, je suis aujourd'hui convaincu, prendre cet outil pour eux, se l'approprier et... J'espère qu'un jour, là, dans peu de temps, ESMA se désengage de tout ça, puisque ça va devenir un outil, hein, pour les habitants, pour qu'ils puissent s'exprimer par rapport à cette radio. Ouais.
Mais nous allons maintenant parler plutôt de cette journée un peu spéciale, cette première émission. Mais avant cela, on va faire une petite pause musicale.
Robert, viens voir la cuisine de Radio Mirail International. T'as les pâtes italiennes, t'as la kafta marocaine, t'as l'entrecôte à la française et on a du vin espagnol. Un mélange des goûts, hein, t'as vu? Moi j'ai préparé mon sac et j'ai immigré déjà. C'est pas mal, il faut le faire. Hein. Là, le plus dur pour un immigré, c'est le retour.
Là, j'ai envie je rentre en Bretagne dans un mois, même pas dans 2 semaines. Là.
Ah ouais.
T'enregistres là. C'est toi, qui c'est qui fait la technique alors?
Champion.
Non, moi je fais la mienne.
Qui c'est qui fait la technique?
Parce que là, il est libre là, l'ordi.
Le
mien est libre. Non, mais pour poser les sons.
On s'en fout.
On est bien là.
C'est que t'as non, c'est Mirail Match.
Oui, mais c'est
Mirail Match. Il faut qu'on fasse Mirail Match. Toulouse Match.
Attends, tu enregistres ça?
On fait quoi? On essaie de la faire avant l'été, cette formation, ou quoi?
Qu'est-ce qu'il y a, ce micro, là? Il est pas bien, ce micro?
Non, juste un petit truc. Qu'est-ce que t'en penses de garder ça, le début? Est-ce qu'on garde à partir de là? Non. Ou est-ce qu'on garde le bonjour?
Bah, si.
Comment?
Non, parce que je
fais... Faire,
j'ai, moi, ouais. j'ai pas été tout...
Ça tourne. Oui, mais moi, j'ai entendu que sa réponse, et ça suffit.
Ça a discuté. Ça a discuté.
Non, on a qu'une heure pour faire... on n'a même pas fini le premier. Non, mais vraiment...
Superbe, ça, la préparation.
Alors, nous venons d'entendre quelques bruits de la salle de rédaction pour cette première, pendant le montage de cette première émission de Radio Mirai International. Jamal, qu'est-ce que vous attendez, comment vous vivez cette première journée après 4 ans, vous nous avez dit, de préparation? Comment vous vivez ça?
Sincèrement, je peux dire aujourd'hui que je suis heureux, parce que tout simplement, je dis ça, je vois que ça aboutit vraiment. Et non, ça aboutit sur le plan physique, c'est pas ça, hein, le produit lui-même, c'est pas ce qui est intéressant. Ce que je vois, l'ambiance autour, l'atmosphère, les gens, les sourires, les partages de repas, les gens qui prennent et qui sont préoccupés par des thématiques. J'ai eu Yuna, Sarah qui me disaient, nous on veut travailler sur la parole, les femmes, sur les quartiers et au-delà de ces quartiers. Toi sur les Pradettes, Richard sur les Pradettes. Voilà, voilà, les gens prennent vraiment à cœur cette aventure-là. Et là, ça, vraiment, je suis très, très, très content. Voilà.
C'est un peu subversif dans tout ça, non?
Bah, si tu entends par subversif que les gens prennent la parole et soient maîtres de leur destin et pèsent sur les choses, oui. Voilà. Si tu entends autre chose, non. Mais nous, on est là, vraiment. On sait qu'aujourd'hui, ce que je te disais tout à l'heure, il y a une vraie rupture au sein des couches populaires elles-mêmes. Et pour moi, c'est un vrai fléau de société, quoi. Et donc, comment faire arriver par ces outils-là à ce que les gens sachent qu'ils font partie de la même histoire, qu'il n'y a pas l'identité, il y a l'identité sociale. C'est-à-dire, les gens sont travailleurs. L'immigration est liée à l'histoire ouvrière et aux cultures populaires. C'est dans ce cadre-là qu'il faut la présenter. Et pour la mieux présenter, il faut que ce soit les acteurs eux-mêmes qui la présentent de cette manière-là, parce que c'est la réalité historique. Voilà. À ce niveau-là, oui, je suis très rebelle.
Et donc, cette première journée donc, marque le début d'une aventure. Comment vous voyez le futur de cette aventure radiophonique?
Alors, je parlais des habitants tout à l'heure, mais aussi il y a des associations aujourd'hui qui collaborent vraiment avec nous, qui ont bien compris ces enjeux-là, parce qu'ils ont des pratiques depuis des années, ils savent très bien que c'est l'intérêt qui a à monter ce genre d'outils. Je pense notamment à Bel Arc-en-Ciel sur Bellefontaine, à Lien Horizondance sur aussi Bellefontaine, à Théo7 qui nous accueille aujourd'hui, c'est extraordinaire, je tiens à le remercier d'ailleurs, et au collectif des habitants des Bradettes. Voilà. Donc il y a et les associations et les habitants. Donc les perspectives... Moi, je n'ai pas envie de figer les choses. J'ai envie que les gens se le construisent, hein, construisent l'outil. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'on a déjà un petit local à côté de Théo7 pour poser le matériel pour que les gens puissent se rencontrer et que je vais essayer de négocier d'une manière pas rebelle, cette fois-ci, avec les institutions, notamment la ville de Toulouse, la mairie, pour avoir un local mutualisable pour les associations, les habitants, pour installer une radio du Mirail International ouverte sur le quartier, sur la ville, mais aussi sur le monde. Voilà.
Local qui serait donc situé dans le quartier?
Bien sûr, c'est un débat entre nous, où on peut situer ce local, etc. Et la majorité dans ce débat a dit que ça serait symboliquement très fort et beaucoup plus logique que ce soit sur le quartier. Voilà.
Et enfin, quelle diffusion vous espérez? Parce que c'est donc une radio pour les habitants, par les habitants. Mais doit-elle se cantonner ou se limiter au Grand Mirail?
Pas du tout, puisque ça s'appelle Radio Mirail International. Ça veut dire qu'il y a des thématiques. Je parlais tout à l'heure sur la question du genre et rapports sociaux de sexe, parole de femmes. Ce n'est pas que des femmes du quartier. Ça peut être aussi comment croiser les paroles de femmes sur la ville. Ça peut être aussi, j'en sais rien, moi je dis ça comme ça, l'histoire de l'exil espagnol. Et d'aller rencontrer à la Casa d'Espagna, puisque les exilés espagnols, il n'y en a pas beaucoup, sont morts, sont vieux, etc. De rencontrer les enfants et les petits-enfants de ces exilés, qui racontent aussi leur histoire. C'est-à-dire une manière, c'est un outil de rencontre, de communication, une manière aussi de découvrir l'autre. C'est pas quelque chose qui est propre à un territoire. Elle est dans ce territoire, mais c'est ouvert sur d'autres histoires, d'autres mémoires. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça peut être un travail sur la paysannerie. Pourquoi pas ? Tu vois, sur des paysans en Ariège, en Aveyron, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce sont les gens, petit à petit, qui vont, et sur la forme et sur le contenu, définir ce qu'ils vont faire. Et pour le définir, je pense que c'est un processus. Action, réflexion, réflexion, action.
Eh bien, merci Jamal pour ces mots.
Merci pour votre invitation.
Et vive Radio Mirail International et que l'aventure continue.
Radio Mirail.
Un petit mot de quelqu'un qui va participer à la radio, qui est là depuis les deux formations, qui connaît bien le Mirail. Robert, pourquoi tu veux participer à cette radio ?
Alors, merci de me donner 2 minutes. Moi, je veux participer parce que je pense que je suis pour le bien des populations, je suis pour le bien des gens de ces quartiers-là, que je connais les quartiers depuis très longtemps, et je me dis que je suis serein, hein, je me dis que ce qui serait bien, et ce qui serait un succès, c'est que les gens s'emparent de cet outil. Voilà, alors, si ce n'est pas le cas, bon, ça veut dire qu'on aurait un problème de fond. Donc, on peut très bien, c'est la raison de ma présence, être là pour tenter que les gens s'accaparent cet outil. Bon, et moi, en tout cas, je ferai tout ce qu'il faut, hein, tout ce que je pourrais, entreprendre, hein, je le ferai volontairement et volontiers. Et donc je souhaite que ça réussisse, ça marche. Voilà, je souhaite vraiment que Radio Mirail marche, voilà, et qu'on entende des sons totalement différents de ce qu'on a entendu jusque là. Et je pense que bon, les gens ne croient plus aux politiques, ne croient plus à la plupart des associations qui prétendent les représenter, hein, et qu'ils ne s'y retrouvent pas, et que nous aussi, si on fait bien les choses, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Bon, ceci dit, il faut être très très prudent, trouver des nouveaux sujets, hein, et aborder un peu tous les domaines, hein, tous les, voilà, c'est ça. Bon, et excusez-moi, je sais pas trop après comment
finir. Non, ben c'est très bien, merci, voilà, petite impression, voilà, c'est bien, merci.
Merci.
Merci. Justement, des sons, on va partir, puisque ce matin, il y avait une manifestation dans le quartier des Pradettes. C'était le collectif des habitants des Pradettes qui organisait une manifestation, on va dire, sur la place du marché pour ce qu'ils appellent un urbanisme modéré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Un petit son de 6 minutes qui va nous expliquer tout ça.
Bonjour Marie-Hélène. Bonjour.
Vous êtes là pour quoi aujourd'hui ?
Eh bien, je suis là parce que j'essaie de défendre le quartier contre toutes les constructions abusives qu'il y a. C'est-à-dire que sur le terrain Vinci, ICAD, il y a déjà beaucoup de logements sans que les infrastructures soient prévues. C'est-à-dire qu'il y a déjà d'énormes problèmes de circulation, avec des agressivités que cela engendre, puisque les gens se garent comme ils le peuvent et les voitures sont déjà abîmées. Et de l'autre côté, sur ce qu'on appelle les terrains de la dépêche, il y a 375 logements qui ont été prévus, donc beaucoup trop. Et en tant qu'habitante du quartier des Pradettes depuis plus de 25 ans, j'ai participé à tout ce qui pouvait améliorer le quartier, que ce soit la demande de la bibliothèque qu'il a fallu demander avec force, ou la défense des espaces verts comme Viollet-le-Duc ou le parc des Cèdres, qui ont été sauvés grâce à la mobilisation des habitants. Et là, nous voudrions... Alors, normalement, ça a été acté par la mairie et Christophe Alves l'a annoncé le soir du festival de théâtre, de l'inauguration. On a demandé une salle de 500 places. De 500 places, c'est parce que nous avons...
Ici, à Bordeaux-Blanche.
Oui, sur le terrain est de Bordeaux-Blanche, hein, voilà, c'est-à-dire ce qu'on appelle le terrain de la dépêche. Donc, pourquoi ? Ben, parce que, d'abord, on n'a plus la Mounette. La Mounette était un lieu de culture, musique du monde, qui a été supprimé.
Absolument.
Voilà. Donc, nous voudrions pouvoir... à la fois faire des spectacles de théâtre, de musique. Ici, il y a eu le théâtre quand même... Bon, moi, je suis au théâtre du Platanier, c'est-à-dire un théâtre occitan, et nous avons organisé, avec le collectif et Folle Saison, le festival de théâtre qui a eu lieu pendant 3 jours, qui a été un vrai succès. Ça, il y a une demande. Il y a eu également Niglo, qui était un festival de théâtre de jazz manouche, qui a attiré beaucoup de monde. Ça, c'était en 2010. Il y a Folle Saison qui organise Saison d'Elle. Donc là aussi, constamment, nous sommes en train d'organiser des...
Vous pouvez rappeler les dates de Saison d'Elle ? Je crois que c'est en septembre.
Je pense que c'est en septembre. Je ne me rappelle plus les dates exactes. Vers le 26 septembre, mais voilà, de toute façon, on fera la publicité.
Deuxième édition,
voilà. Il y a eu aussi les Occitanos Pradettes, qui avaient réuni tout un tas de chanteurs occitans, musiciens occitans, etc. Parce qu'il y a une identité ici culturelle, on va dire, de vivre ensemble tout en ayant quand même une culture bien spécifique, ce que nous essayons de faire. Voilà.
Une vraie identité de quartier.
Une vraie identité de quartier avec une volonté de vie commune, que ce ne soit pas une cité dortoir, que nous ayons des moyens de locomotion communs dignes de ce nom, parce que bon, là, il y a des bus qui ont été organisés, il y a déjà des progrès, hein, mais nous sommes encore en train de défendre ce quartier qui en a bien besoin. Et surtout, sans infrastructure, c'est ce qui nous manque le plus. Il nous faudrait un deuxième gymnase, il nous faudrait de l'espace pour pouvoir faire toutes les animations. Il y a Vie Revolte, c'est chant, danse, musique, crescendo. Enfin, il y a plein d'animations dans le quartier, très vivantes, et nous n'avons pas assez de locaux.
Est-ce que les enjeux du quartier des Pradettes ne rentrent pas dans un enjeu global de la ville ?
Ça fait partie, bien sûr, de nos politiques de la ville, mais les Pradettes, c'est un quartier mixte, avec... ce n'est pas uniquement, comme ça a été dit, un quartier populaire. On demande des infrastructures de qualité.
Oui, mais si vous voulez, on est réunis aujourd'hui. C'est pas la première fois qu'on se manifeste sur ce sujet, parce que la mairie et M. Moudenc, en l'occurrence, visent à urbaniser et à densifier notre quartier. Ce qu'on peut dire, c'est que la densification du quartier, c'est comme la gangrène, ça finit par tout pourrir, quoi. Et aujourd'hui, sur Toulouse, on assiste à un bétonnage en règle, tout ça parce qu'on est une métropole, mais on se soucie pas du bien vivre des citoyens, quoi. Donc aujourd'hui, on se manifeste pour garder le dernier carré d'espace vert du quartier, pour pouvoir justement en faire un espace dédié aux citoyens, aux habitants, et pas aux bétonneurs.
Les usagers dans la configuration du quartier et de la ville.
D'urbanisation, de rentabilité du mètre carré. On peut pas être d'accord, parce qu'on va à la catastrophe, on l'a vu ailleurs. Et ce qui se passe ailleurs, ça se passera chez nous.
Clairement dans la spéculation.
On est dans les spéculations immobilières, quoi. On voit bien que les promoteurs bénéficient d'aides du gouvernement à travers la défiscalisation. C'est pas des jeunes couples à majorité qui accèdent au logement, mais c'est des spéculateurs qui placent leur argent pour avoir des déductions fiscales. Voilà la réalité.
Tu crois
parfois à une participation directe des habitants à s'organiser par eux-mêmes.
Ouais, tout à fait. Enfin, l'histoire de notre quartier le prouve. Hein. Le collectif des Pradettes, ça fait plus de 30 ans qu'il existe. Et en 30 ans, on a réalisé beaucoup de mobilisations. Et c'est comme ça qu'on a obtenu, d'ailleurs, la bibliothèque. C'est comme ça qu'on a obtenu l'accueil jeune. Et c'est que par la mobilisation qu'on arrivera à imposer une concertation qui répondra aux besoins des habitants.
Merci Richard, Radio Mirail International vous remercie.
Merci.
Et voilà, et c'est sur cette petite musique de Grand Canyon, une espèce de saut du Béarn, je crois, qu'on termine ce petit reportage autour du collectif des habitants des Pradettes. Richard, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ce qui s'est passé, sur cette mobilisation?
Ouais, donc on est venu ce matin, voilà, on était plusieurs, on est venu avec plusieurs personnes de la radio. Mirail International, et donc on a fait. Moi j'ai fait deux prises de parole d'habitantes et d'habitants, donc prise à vif donc ce matin sur la question de l'urbanisme. L'urbanisme modéré, pas vraiment modéré à vrai dire, ça dépend de quel côté on se place. En fait, on a questionné le fait de la densification urbaine sur le quartier des Pradettes et le fait qu'il manque des infrastructures et des équipements. Typiquement des salles de culture, des jardins partagés, de la circulation, de la sécurité qui ne fonctionne pas bien. Donc tout ça, en fait, on en a parlé ce matin. Et ce que vous avez entendu tout à l'heure, c'est un extrait en fait, d'interview d'une dame que j'ai pris comme ça au hasard, qui a parlé de manière très diserte. Et puis de Richard, qui est un habitant aussi du quartier. Voilà,
Un autre Richard,
parce que c'est pas moi. Je crois que ses propos sont très éloquents, hein, très engagés sur notamment la politique de la ville. Mm-hmm. Et comment les habitants et les habitantes peuvent se réapproprier en fait leur quartier, quoi. Voilà. Et s'auto-organiser pour ça. Et puis à la fin, ça a fini avec une prise de son du groupe Brancaleon. Et qui est venu très très gentiment, très sympathiquement se solidariser avec le quartier, quoi. Voilà, on les remercie.
Très bien, merci.
Non. International sur le métro.
Non, Radio Mirail International.
Radio Mirail International.
Et voilà, et pour terminer cette première émission, on va terminer avec un petit peu plus... quelque chose d'un petit peu plus léger, un peu de poésie, avec une lecture de texte d'Aladin, de Naïmar, parce que, est-ce que tu peux remettre dans le contexte cette lecture?
Oui, c'est une lecture que je viens de le faire à la CAF Poésie, dans les 50 heures de lecture de Mêlée Nuit. Je fais la lecture de Aladin en arabe avec une camarade de classe qui l'a fait en français, et je vais vous faire une partie de la lecture que je viens de le faire. قال علاء الدين للجني لقد دعاني الإمبراطور إلى زيارته فهيئ لي حماما فاخرا لأستحم فيه وأحضر لي أثمن ثياب لألبسها وما إن أتم قوله حتى حمله الجني وطار به وأنزله في حمام بديع مصنوع من الرخام الثمين، فجلس في بهو حجرة واسعة لا يوجد مثلها في قصور الملوك، ثم خلع ثيابه واستحم، وعني الجني وأعوانه بخدمته، وأحضروا له أحسن أنواع العطور والطيب، ثم ألبسوه أفخم الثياب النادرة باللآلئ والمجوهرات. دهش علاء الدين مما رأى، ثم طلب من الجني أن يحضر له فرسا مسرجا مطهما وعشرين خادما عليهم أفخر الثياب يسيرون أمامه، وعشرين مثلهم يسيرون خلفه، ثم يحضر ست جوار مرتديات أفخر الملابس ليسرن مع أمه، ويحضر 10 أكياس في كل كيس 1000 دينار، كل ذلك للقاء الإمبراطور. ما إن دخل القصر حتى رحبوا به حاشية الإمبراطور. شكر علاء الدين أحسن الشكر وقال للإمبراطور: لن أنسى هذه العناية التي خصني بها، وسأظل طوال حياتي خادمه وولده المخلص الأمين. شكر الإمبراطور أدب علاء الدين وضرفه، وجلسا يتحدثان قليلا حتى جاء وقت الغداء. سارا معا إلى قاعة فخمة وجلس مع سهره الجديد على مائدة فاخرة، ودارت الأحاديث بينهم. فأعجب الإمبراطور بذكاء علاء الدين وبعد نظره وأصالة رأيه وحسن صوابه. فلما انتهوا من الأكل أمر الإمبراطور باستدعاء قاضي القضاة ليزوج علاء الدين بالأميرة بدر البدور.
Merci beaucoup.
Merci, merci.
Je pense qu'on peut terminer sur cette musicalité de la langue sans forcément qu'on l'ait comprise, non? Je sais pas. Moi je trouvais que la musique suffisait en soi, de la langue, ouais, parce que je comprends pas l'arabe, je trouvais que c'était très beau. Merci beaucoup Naïma. Voilà, merci à tous les participants pour ce premier exercice d'émission en direct, pour Radio Mirail International. Vous pouvez nous retrouver sur Radio Mirail, donc tout accroché, le Mirail, vous savez comment ça s'écrit évidemment, radiomirail.gwiad.org, donc GWAD on va dire. Voilà. Et surtout, donc, comme c'était une première émission, venez participer aux prochaines émissions, venez parler, donner votre opinion, donner vos coups de gueule, etc. Vos histoires, votre histoire. Et voilà, et bien à bientôt sur Radio Mirail International.
علشان يا ام حنتني ولا لا ولا لا 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 ولا لا ولا لا ولا لا 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 ل